Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1977, Raymond Aron était l'invité de l'émission de Jacques Pogam, Parti pris, après l'avoir déjà été 2 ans auparavant. À 2 années d'écart, à certaines des questions qui étaient très voisines, Raymond Aron formulait des réponses à peu près similaires. Mais, pour les signes de l'évolution du monde dont elle témoignait à travers les réponses de Raymond Aron, après celle de 75, l'émission de 77 mérite d'être écoutée. Notamment pour la double réponse qu'il faisait à la question « Quel est l'événement de ces dernières années qui vous donne le plus d'espoir ?» et également par la manière dont il y évoquait à nouveau sa relation et sa brouille avec Sartre. Sartre, avec lequel, à l'initiative d'André Glucksmann, il allait en 1979 se retrouver à une même tribune et aussi à l'Élysée pour plaider la cause des réfugiés du Vietnam et du Cambodge fuyant le communisme. Une rencontre qui donna lieu entre les deux hommes à une poignée de main restée fameuse. Dans l'émission qui va suivre, on percevra que des revirements idéologiques de la fin des années 70, Raymond Aron avait pris note alors que s'ouvrait un temps incertain où Sartre, sur le plan politique, pouvait ne pas avoir eu raison et le libéral Aron pouvait ne pas avoir eu tort. Un temps dont leur poignée de main sur fond de bateau pour le Vietnam deviendra un moment symbolique à propos duquel Raymond Aron a écrit « De toute évidence, la poignée de main ne mettait pas fin à 30 années de séparation. Pas plus à ses yeux qu'aux miens. » Parti pris, Raymond Aron, une émission diffusée la première fois le 28 mars 1977 sur France Culture.
Bonjour, l'invité du Parti pris mot à mot est aujourd'hui Raymond Aron. Raymond Aron, quelle est la vérité qui vous gêne le plus ?
Probablement celle qui porterait atteinte à l'idée que je me fais de moi-même.
L'idée que vous vous faites de vous, quelle importance y attachez-vous par rapport à votre engagement public ?
Une importance décisive, parce que, disons que je me fais l'idée d'un homme qui a le désir de la vérité et qui est plutôt porté à l'honnêteté qu'à la mauvaise foi. Et si quelqu'un arrivait à me démontrer que je suis en profondeur de mauvaise foi, je serais à coup sûr atteint par cette vérité, mais je ne crois pas que ce soit la vérité.
Ce qui voudrait dire d'une certaine manière que, étant honnête, on ne reconnaît finalement que très peu de vérité ?
Non, c'est pas du tout ça. Je reconnais au contraire une quantité de vérités désagréables pour les thèses que je défends. Je ne sais plus qui avait un jour écrit que quand je concluais un de mes articles par une prise de position en faveur de telle ou telle thèse, j'avais, avant d'arriver à cette conclusion, donné la plupart des arguments en faveur de la thèse contraire. Et ma femme ne cesse de me reprocher, dès que nous discutons, de plaider la thèse de mes adversaires.
C'est votre façon d'être un petit peu dans la lignée d'un homme comme Renan, par exemple ?
Je ne pense pas. Je ne me sens pas d'affinité avec Renan. C'est pas possible, parce que l'itinéraire intellectuel, spirituel de Renan est si foncièrement différent du mien Je ne vais pas faire de psychologie des peuples, mais enfin, le celte, le rêve, le christianisme, la spiritualité diffuse, tout cela, c'est une personnalité intellectuelle à coup sûr très attachante, qui ne m'a jamais attaché très fortement, et en tout cas qui me semble aussi éloigné que possible de la mienne et de mon propre itinéraire.
Votre... Non, je ne vais pas employer le mot d'hostilité, mais votre réserve à l'égard de la spiritualité diffuse explique d'une certaine manière votre allergie à une certaine forme de socialisme contemporain ?
Peut-être. Peut-être. Mais j'ai employé spontanément l'expression spiritualité diffuse, probablement parce que... J'ai le sens sur les problèmes fondamentaux de la nécessité de dire oui ou non. Cela dit, les matérialistes ou les athées agressifs me déplaisent aussi.
Mais vous récusez le messianisme au nom de...
Le rapport entre ma relation à la spiritualité et ma relation au socialisme, non. J'ai été dans ma jeunesse pendant 6 mois membre d'une section de l'Internationale ouvrière, c'est-à-dire du Parti socialiste français. J'en suis parti très rapidement parce que la section m'ennuyait beaucoup. Et quand j'entendais des jeunes bourgeois du 5e de la section socialiste prendre une grande voix pour dire avant tout « il faut que nous nous souvenions que nous sommes un parti révolutionnaire », mon goût de la vérité se révoltait. D'un autre côté, aujourd'hui... Le socialisme a été mis suffisamment à l'épreuve dans un grand nombre de pays pour que nous sachions que ce n'est pas le paradis sur terre. Quant à la raison pour laquelle je ne suis pas socialiste, ça je peux vous la donner, c'est parce que après de longues études d'économie et de sociologie, je suis arrivé à la conclusion que le régime très imparfait d'une économie mixte est, à l'époque actuelle, pour les Européens, le moins mauvais, et que des formes nouvelles de socialisation iraient en sens contraire des buts que se proposent les socialistes. Je crois que c'est une décision raisonnable.
Il y a déjà de nombreuses années que vous dites cela. Et
oui, mais
au début, on vous a regardé un petit peu de travers. Aujourd'hui, on vous écoute, je dirais, beaucoup plus dans des horizons qui ne sont même pas les vôtres. Vous avez l'impression que le temps vous a rattrapé ?
Je pense que... Vous voyez, l'autre jour, dans le Nouvel Observateur, il y a un garçon que je n'ai jamais rencontré qui a écrit sur mon dernier livre un article qui contrastait agréablement avec l'article publié par Le Monde. Le Monde avait fait écrire sur mon dernier livre, Plaidoyer pour l'Europe décadente, un article par un garçon que je connais depuis longtemps, que je tiens pour insignifiant, qui a écrit un article dérisoire contre moi, avec simplement le désir d'être désagréable. Le Nouvel Observateur a publié un article où il disait qu'ils étaient opposés à ce que je représentais ou aux idées que je défendais, mais qui commençait par cette phrase « Depuis 30 ans, Raymond Aron ne se lasse pas d'avoir raison. » Bien, je sais que dans cette phrase, il y avait de l'ironie, mais il y avait tout de même, disons, la constatation que dans les discussions à l'époque du stalinisme, ce n'est pas moi qui avais tort. De la même façon que dans les discussions des années 30 sur Hitler, que lorsque je dénonçais les ambitions et les horreurs de l'hitlérisme, ce n'est pas moi qui avais tort. Donc, puis il y a autre chose. André Malraux m'avait dit un jour, quelques années après la guerre, il m'avait dit, vous savez, en France, rien ne donne autant d'autorité que l'âge. Attendez, quand vous aurez un âge avancé, tout le monde vous écoutera. Alors tout le monde ne m'écoute pas, mais le fait que je sois là depuis très longtemps contribue peut-être à ce qu'on fasse semblant de m'écouter davantage.
Mais quelqu'un qui a un âge encore plus respectable que le vôtre et qui pourtant semble être peut-être moins écouté que vous aujourd'hui, c'est Jean-Paul Sartre. Vous avez l'impression que le temps, à lui, a donné tort ?
C'est difficile à dire. D'abord, nous avons le même âge. Lui, dans la notoriété littéraire, dans la gloire et dans l'influence, est monté beaucoup plus haut que moi. Et par définition, la situation qu'avait Sartre dans la jeunesse ne pouvait pas se maintenir indéfiniment, parce que le propre du maître à penser d'une jeunesse, c'est de ne plus être au même degré le maître à penser de la génération qui vient après. Ces maîtres à penser de la jeunesse, par définition, sont transitoires. Alors, d'autre part, Sartre aujourd'hui est davantage handicapé que moi par des difficultés physiques, puisqu'il voit très peu, et il supporte cette demi ou trois quarts de cécité de manière exemplaire. Mais il est un peu paralysé dans l'activité qu'il pourrait exercer. J'ajoute que, ayant depuis 1968 choisi une position que nous appellerons en simplifiant gauchiste, qui correspond d'ailleurs à l'essentiel de son tempérament, il se condamne lui-même, lorsqu'il s'agit des débats politiques du jour, à être en dehors du coup. Je suis en train de plaider sa cause. Il est vrai qu'il ne plaiderait pas la mienne s'il était dans ma situation, mais, comme dirait ma femme, vous plaidez toujours la cause de vos adversaires. Mais sur ce point, je plaide avec bonne conscience la cause d'un homme qui a eu un destin assez exceptionnel, qui aujourd'hui, évidemment, n'est plus au sommet, dont beaucoup des textes politiques ont été démentis par l'événement, qui s'est, à mon sens, très souvent trompé. Mais j'ai toujours ajouté, tout le monde a le droit de se tromper, et quand en plus on a un peu de génie, peut-être qu'un coefficient supérieur d'erreur fait partie des données inévitables de la génétique.
Vous dites que le gauchisme correspond parfaitement au tempérament de Sartre. Ça voudrait dire qu'entre vous et lui, il y a plus que l'influence décisive de Simone de Beauvoir.
Ah oui, je ne pense pas du tout
que... chacun sait que vous avez été très très proche, que vous lui avez apporté beaucoup de choses, et puis
c'est
un
vrai,
jour il y a eu
vrai.
Un clash.
Il y a eu des clashs, mais il y a surtout d'abord une séparation progressive qui était due au fait que nous menions des existences distinctes, que lui vivait avec Simone de Beauvoir, que de mon côté je me suis marié, j'ai eu des enfants, etc. Vous savez, entre... Sartre libertaire et moi libéral, il y a bien entendu des possibilités de clash, mais il y a aussi des éléments communs. Ce qui a fait la violence de la rupture, c'est que Sartre, que je tiens pour un tempérament anarchisant, pour un tempérament libertaire, et qui a été effectivement libertaire ou anarchisant avant la guerre, s'est laissé entraîner au compagnonnage avec le Parti communiste par un mécanisme intellectuel que je comprends. Il déteste tellement la société bourgeoise, et je ne veux pas faire la psychanalyse de sa haine de la société bourgeoise. Il déteste passionnément la société bourgeoise, et il n'a pas vu que la société soviétique comportait toutes les tares de la société bourgeoise, plus un certain nombre de tares supplémentaires. Alors, à partir d'une révolte fondamentale contre la société bourgeoise, il a glissé au compagnonnage avec le Parti communiste, et il l'a fait à l'époque du stalinisme, ce que je trouvais absurde, j'allais dire monstrueux, mais non, n'employons pas de grands mots, disons que c'était déraisonnable. Et alors, c'est à cette époque qu'il y a eu nos polémiques, qui amuseront peut-être quelques journalistes de l'avenir, mais qui sont au fond sans importance, qui ont simplement, me semble-t-il, une espèce de signification un peu historique du destin d'une génération intellectuelle. On peut dire, si l'on veut, que nos itinéraires à Sartre et à moi représentent deux des itinéraires possibles de la génération qui est arrivée à la conscience politique au début des années 20, nous étions tous les deux portés vers les idées de gauche. J'étais plus intéressé par la politique que lui. Et lui, après la guerre, s'est dirigé non pas vers le communisme au sens strict du terme, mais vers un demi-communisme. Et moi, après la Deuxième Guerre, j'ai considéré que la grande menace pour nos sociétés libérales, c'était le stalinisme et, disons, la forme soviétique de socialisme. Alors, en ce sens, son itinéraire et le mien ont un caractère exemplaire dans leur opposition ou dans leur divergence.
Vous parlez d'une divergence, d'une certaine façon, exemplaire, mais il y a un terme que Sartre reprend toujours, très cher à son cœur, c'est le terme de révolution. J'ai l'impression que c'est un terme que vous envisagez toujours avec une réticence
Bon, moi, je envisage ce terme avec ironie, surtout. Si, après l'expérience de la Révolution russe et d'un certain nombre d'autres expériences, on pense que le renversement par la violence est la condition d'une société plus équitable ou plus libérale, si on s'obstine à croire à la vertu humaine des révolutions en ce sens grossier et précis, je pense qu'on est invulnérable à l'expérience du siècle. Alors, je n'emploie pas le terme de révolution, parce que je pense que dans un pays comme la France, le coût d'une révolution serait absolument disproportionné aux bénéfices humains que l'on pourrait en attendre. Et je pense qu'à partir de la société existante, qui est très imparfaite comme toutes les sociétés, mais qui fondamentalement tout de même est une société, un, libérale, et deux, progressive, en ce sens que depuis 30 ans, on a beaucoup amélioré la condition des hommes, y compris des masses populaires, à partir de cette société, on peut faire du mieux sans passer par l'apocalypse révolutionnaire. Et je pense que le goût de l'apocalypse révolutionnaire chez des intellectuels en chambre ou en chaise longue est plutôt dérisoire, ça c'est vrai.
Est-ce parce que vous vous méfiez, que vous avez une aversion profonde pour la violence, que vous vous êtes toujours tenu à l'écart, d'une certaine manière, d'une carrière politique, de fonction politique ?
Non, je n'aime pas la violence, c'est une affaire entendue, mais Sartre non plus, au fond, et j'ai le sentiment que je la supporterais aussi bien que lui. D'autre part, la politique dans un pays démocratique n'implique pas le goût de la violence. La raison pour laquelle je suis resté au seuil de la politique, enfin, il y en a plusieurs. Mais la première raison, c'est que j'ai toujours voulu continuer une carrière intellectuelle, une carrière universitaire. Puis la deuxième raison, c'est que je crois, ou tout au moins ma femme m'a toujours convaincu, que je n'avais pas de don pour la carrière politique. D'abord, j'ai une horreur physique de mentir. Je suis presque incapable, quand je refuse une invitation, de dire que je suis pris ce jour-là, parce que ma réaction immédiate quand je cause avec n'importe qui, c'est de dire ce que je pense, et je suis aussi peu doué que possible pour le double talk ou the double thinking. Or, la vie politique, et chaque fois que je l'approche, si peu que ce soit, implique une capacité de calcul dans ses propos, de ne pas se laisser aller à ses sentiments immédiats, de se demander comment sera interprétée la parole que l'on prononce. Franchement, je crois que ma femme avait raison. Je ne suis pas doué pour l'activité de l'homme politique.
Et vous l'acceptez de la part des autres ?
Elle a une autre raison qu'elle me donne toujours. Elle me dit que je suis d'une impatience extraordinaire. Et qu'il y a deux choses que je supporte mal, c'est l'ennui et la bêtise. Or, la carrière de l'homme politique comporte la nécessité de la patience à écouter des discours complètement dénués d'intérêt, et l'acceptation, disons, de la médiocrité intellectuelle de beaucoup de ses semblables.
Alors, vous allez me dire, il y a quand même des circonstances exceptionnelles. Vous parlez d'ennui et de bêtise. Prenons un exemple précis. Le général de Gaulle, dans certaines circonstances, a fait que la vie de la France avait un intérêt quand même assez profond. Vous n'auriez pas aimé être associé très, très directement à
cette... Je vois que vous recommencez à me poser la question que tout le monde me pose.
Non, mais je ne vous l'aurais pas posé si vous ne m'aviez pas parlé d'ennui et de bêtises.
Non, mais tout le monde... Oui, je vois bien.
Il y a eu des moments où...
Oui, mais c'est bien amené, il n'y a rien à dire. Mais en fait, c'est une question à laquelle je commence à avoir répondu un certain nombre de fois. On me demande indéfiniment si je n'aurais pas souhaité être un conseiller du prince et pourquoi je n'ai pas été le conseiller d'un grand prince comme le général de Gaulle ou le président de la République actuelle. Bien, j'ai déjà répondu, je n'en sais rien, les circonstances ont fait que je n'ai jamais été aussi proche du général de Gaulle que j'aurais pu ou dû l'être, que d'autre part, du fait de mon penchant à être à la fois modéré dans mes opinions et, disons, désobligeant dans mes critiques à l'égard des hommes au pouvoir, J'ai réussi, après une trentaine d'années d'activité journalistique dite conservatrice, à indisposer à peu près tous les hommes qui ont gouverné la France. Alors bon, c'est un fait. Cela dit, les hommes politiques français n'ont jamais souhaité avoir des conseillers extérieurs à l'administration. Et finalement, je crois que le hasard n'a pas si mal fait les choses, c'est-à-dire que le rôle que j'ai joué, qui a consisté à exercer une certaine influence sur le monde politique par mes écrits, était le rôle qui convenait le moins mal à un homme aussi peu doué pour l'action politique que je le suis.
C'est-à-dire que cela vous a permis de ne pas trop vous mouiller les mains dans des... dans un monde...
C'est pas ça. Si vraiment un jour j'étais entré dans la bagarre politique, puisque j'ai toujours expliqué que la bagarre politique en tant que telle avait ses contraintes, ses nécessités, et que si on entre dans la bagarre politique, il faut accepter une série de moyens ou de procédés qui sont déplaisants. Et comme j'essaye d'être logique avec moi-même, si j'étais entré dans la lutte politique, j'en aurais accepté les contraintes. Mais il se trouve que, n'étant pas doué pour jouer un rôle important dans l'action politique, les circonstances m'ont amené à jouer un rôle secondaire et marginal dans la réflexion politique, et que peut-être, comme le disait un de mes maîtres, Alain, on a finalement toujours l'existence que l'on mérite, à savoir que lui me dirait « Vous n'avez pas été un homme politique », vous n'avez été le conseiller d'aucun prince, mais vous avez joué un rôle comme commentateur politique, et vous étiez né pour cela. Vous ne le saviez pas, mais l'existence est plus sage que les hommes.
Vous dites que ce qui vous freinait, si vous voulez, dans l'action politique, c'était votre impatience. Pourtant, vous avez accepté pendant des années, j'allais dire au moins pendant 25 ans ou 30 ans, que des gens vous tournent le dos en... vous disant que vous n'étiez pas dans le sens de l'histoire, et vous avez eu la patience d'attendre que l'histoire vous donne d'une certaine façon raison.
Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une question de patience. C'est une question de fermeté, de conviction. Si vous voulez, si quelqu'un me disait que je n'ai pas de caractère ou que je n'ai pas de courage civique, ça, à supposer que ce soit une vérité, c'est une vérité qui me blesserait. Mais à l'époque où, à l'époque du stalinisme, où on me tournait le dos, où j'étais un personnage maudit, même souvent dans l'université, je n'ai jamais songé à faire une concession quelconque, du moment que je croyais que c'était vrai. D'autre part, il ne faut pas oublier que je suis essentiellement un homme de passion. Je suis un homme de passion contrôlé par la raison et qui n'exprime pas ses passions dans ses écrits. Mais même si je l'avais souhaité, jamais je n'aurais pu faire de concessions par rapport à ce que je crois vrai ou par rapport aux causes auxquelles je suis émotionnellement attaché. Ça, ce n'est pas une question de patience, c'est une question de tempérament, c'est une question d'être.
Le libéralisme peut être aujourd'hui une passion, vous croyez, pour beaucoup de gens ?
Non. Non, mais alors, vous savez la réponse. La liberté est un de ces biens rares dont on ne connaît le prix exact que quand on l'a perdu.
Raymond Aron, il nous reste 2 minutes. Malheureusement, je vais sauter la deuxième question, l'hypocrisie la plus grande de notre temps. Je pense qu'à peu près tout le monde aura deviné votre réponse éventuelle. On pourrait peut-être passer à la troisième. Quel est l'événement de ces dernières années ou le courant de ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
J'hésite entre deux. Il y en a un que je voudrais dire, bien que cela semble paradoxal, c'est certains éléments de la révolte gauchiste contre la société industrielle. Dans la mesure où ces révoltes ne prennent pas une forme pathologique et excessive, je suis de ceux qui pensent que l'Occident a toujours progressé à coup de crise et que la remise en question du modèle de développement industriel qui était classique il y a une quinzaine d'années, cette remise en question me paraît en elle-même satisfaisante. Et le deuxième événement qui me paraît porteur d'espoir, c'est la perte d'illusion sur le modèle soviétique. Cela dit, ces deux événements sont à la fois porteurs d'espoir et porteurs d'angoisse. parce que mal interprétée, la révolte dont le symbole est 68 peut amener au pouvoir, disons, des communistes ou l'équivalent, c'est-à-dire à un certain degré de décomposition de la société, le despotisme devient inévitable. Et d'autre part, la prise de conscience de l'erreur du modèle soviétique peut donner aux partis qui prétendent conserver les espoirs de 1917 en évitant les défauts du modèle soviétique, peut, dis-je, donner une nouvelle chance à une société despotique à l'Ouest. Alors, chacun de ces deux mouvements, le mouvement de révolte contre le conformisme industriel et la révolte contre le modèle soviétique, sont, comme tous les mouvements historiques, porteurs du meilleur et du pire, porteurs de nos espoirs et aussi créateurs de nos angoisses.
Espoir ou angoisse, tout ça, c'est une question de conscience, peut-être.
C'est une question d'humeur et de jour.
Merci Raymond Aron pour ce mot à mot. Je vous rappelle le titre du livre publié déjà il y a quelques semaines par Raymond Aron. C'était « Plaidoyer pour une Europe décadente » chez Robert Laffont. Bonne journée.
C'était Raymond Aron au micro de Jacques Pogam dans Parti pris. Une émission diffusée la première fois le 28 mars 1977 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.